Ce matin, j'aimerais méditer avec vous un texte que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25. Matthieu, chapitre 25, et je lirai à partir du verset 31 dans la Nouvelle Bible Second. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône glorieux. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il mettra les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. » Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. Alors les justes lui répondront, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger ? Ou avoir soif et avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli? Ou nu et avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus te voir ?» Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela pour l'un de ses plus petits, l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors, ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou soif, étranger ou nu ou malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Alors il leur répondra, « Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela pour l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Jusque-là, notre lecture. Seigneur, que ta parole soit vivante au milieu de nous maintenant. Amen. Nos actions présentes ont des conséquences jusque dans la vie éternelle, nous dit ce texte. Ce qui veut dire que la façon dont nous traitons les pauvres et les petits a des conséquences jusque dans l'éternité. Et donc, il serait difficile d'exagérer l'importance d'agir dans notre quotidien avec ce que nous pensons être le cœur de Dieu. Or, Dieu aime à renverser nos standards. Il se plaît à confondre les forts et les sages par la faiblesse. Il se plaît à se révéler dans ce qui paraît méprisable aux yeux de tout le monde, comme la mort par la crucifixion de son Fils. Le succès aux yeux de Dieu, ce n'est pas d'être riche, beau, de s'épanouir, de pouvoir s'offrir tout ce que l'on veut. Et l'échec, ce n'est pas de rester pauvre sur un plan matériel. Les critères de Dieu sont différents. Celui qui réussit, pour Dieu, c'est celui qui a une vie tournée vers les autres, et en particulier vers les faibles et les plus petits. Et un avertissement nous est donné dans ce texte à tous ceux qui ont des capacités, à tous ceux qui possèdent. N'investissez pas votre vie uniquement dans le monde présent. Pensez au monde à venir, parce que vos actes vous suivent jusque dans l'éternité. Alors cette péricope, ce texte que nous venons de lire, fait partie des discours de Jésus sur la fin des temps. Et si Jésus nous parle de ce qui va venir, et ici, s'il nous parle du jugement dernier, ce n'est pas juste pour satisfaire notre curiosité, mais c'est parce qu'il a envie de nous aider à mieux vivre le temps présent, pour que nous soyons prêts quand il reviendra. L'histoire qui nous est racontée à partir du verset 31, même si elle parle de chèvres et de boucs, ce n'est pas une parabole. Jésus utilise ici des images, beaucoup d'images, mais pour parler d'une réalité à venir. Une réalité à laquelle nous devons nous préparer, celle d'un jugement. D'un jugement de tous. Jésus reviendra pour juger et pour trier, nous dit ce texte. Et le verset 31 nous apprend qu'il y aura beaucoup de monde. Le Seigneur va convoquer tous les anges dans la grande salle de l'audience. Et lui-même va s'asseoir sur un trône glorieux. Devant Jésus, le roi, vont se tenir toutes les nations. Donc ce n'est pas un jugement qui serait destiné seulement au peuple d'Israël, par exemple, ou seulement à l'Église. Ce n'est pas non plus un jugement qui serait destiné qu'aux païens, à ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui ne veulent pas le suivre. C'est un jugement où tout le monde est convoqué. Les nations, c'est tout le monde. Ceux qui auront acclamé Jésus seront là. Ceux qui auront placé leur foi en lui. Mais se trouveront aussi devant le trône ceux qui auront chassé Jésus. Je pense à l'épisode de Gadara, où ceux qui se seront lavé les mains, comme Pilate s'était lavé les mains au moment du jugement de Jésus, tous seront là. Nous aussi, nous serons devant ce trône. Nous serons tous là. Et Jésus prendra sa place sur le trône comme un roi, comme un juge. Ce Jésus qui apparaît ici sur un trône de gloire, c'est le même Jésus qui auparavant a été trahi, moqué, abandonné, crucifié, qui a été mis à nu, à qui ensuite on a mis un manteau, le manteau écarlate du sarcasme, et puis qui a de nouveau été dévêtu. C'est lui qui a eu soif sur la croix et à qui on a donné pour toute boisson du vin aigre mêlé d'amertume. Jésus pauvre parmi les pauvres. Jésus abandonné. Mais Jésus aussi réhabilité. Parce que le Père va réhabiliter son Fils. Et c'est pour ça qu'il apparaît dans notre récit comme un Christ de gloire qui occupe la fonction de celui qui établit la justice, comme un roi. On le voit aussi ici dans la figure d'un berger qui va prendre soin de son troupeau et le mettre en lieu sûr. Mais alors maintenant que tout le monde est rassemblé devant le trône, on voit le roi qui opère un tri. À droite, les moutons, ceux qui sont bénis, ceux qui sont déclarés justes. Pour eux, ce qui leur est réservé, c'est le royaume de Dieu. Et à gauche, le texte nous dit que ce sont les maudits. Les maudits que le roi va chasser dans le feu éternel qui était préparé pour le diable et ses anges, les démons. Il y a donc deux groupes. Deux groupes qui sont distingués en fonction de leurs actes pendant leur pèlerinage terrestre. Et ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir, mais quel est le critère de jugement pour séparer les moutons des chèvres, les brebis des boucs? Remarquez d'abord que c'est Jésus qui opère le tri. Ce n'est pas à nous de séparer les boucs et les moutons. Le critère de sélection peut paraître assez étonnant quand on y regarde de plus près. Parce qu'il n'est pas dit que ce sont les chrétiens qui seront placés du bon côté. Il n'est pas dit non plus que ce seront ceux qui auront adopté la bonne confession de foi qui seront déclarés les bénis. Ce ne sont pas des étiquettes qui comptent. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur » pour être reconnu comme un mouton. Il ne suffit pas non plus de se dire simplement croyant ou chrétien. En fait, la marque qui identifie ici le vrai enfant de Dieu, ce ne sont pas les beaux sentiments que l'on peut avoir pour le Seigneur. Ce ne sont pas les bras que l'on lève pendant la louange. Ce ne sont pas nos émotions pendant les temps de prière. Ce ne sont pas non plus nos belles déclarations sur Jésus, nos beaux discours sur la foi chrétienne, ou nos promesses de changer, ou notre envie de servir quand enfin on aura le temps. Il est dit ici que les nations qui sont devant le trône seront jugées en fonction de leurs œuvres. Chacun sera jugé selon ses actes. Ça veut dire que Dieu ne nous juge pas sur nos belles intentions, sur nos belles déclarations, mais sur notre façon d'agir. Ce sont nos actes qui comptent aux yeux de Dieu, mais lesquels ? Si je devais un peu simplifier, nous pourrions dire que ce qui compte, c'est d'obéir aux lois du Seigneur. Quand Jésus a dû résumer les commandements du Seigneur, il a dit ceci, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. » Et il a rajouté un deuxième commandement, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ces commandements, ou ce résumé des commandements, ne nous est pas rappelé ici dans le texte, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. L'accent dans le texte porte sur le soin que l'on porte aux plus faibles, à la manière dont nous les accueillons, dont nous leur donnons une place. Il est question de ceux qui ont faim, de ceux qui ont soif. Quand on a faim et on a soif, c'est qu'on est là dans ce qui relève des besoins fondamentaux pour vivre. On ne peut pas vivre sans eau et sans nourriture. Il est question ensuite, dans notre texte, d'accueil des étrangers. Qui sont les étrangers ? Ce sont des gens qui sont en rupture avec leur milieu d'origine, qui ont perdu leur ancrage culturel, peut-être familial, qui se retrouvent souvent isolés, sans contact. Ce sont des pauvres aussi. Et puis la question de ceux qui n'ont pas d'habits, qui se retrouvent nus, est le minimum de la dignité humaine. C'est d'avoir des vêtements. Et je pense qu'aux vêtements, on peut ajouter le logement, un autre moyen de se couvrir. Et puis les questions dans notre texte de ceux qui ont des affections physiques, qui souffrent de maladies ou de handicaps, qui pourraient être relégués facilement aux marges à cause de leurs difficultés de santé. Il est question de les visiter, c'est-à-dire de les insérer socialement. Et la liste se termine par ceux qui sont en prison, ce qui évoque des questions de justice, notamment de justice sociale. Parce que s'ils y sont en prison et que Jésus s'identifie à eux, c'est sans doute qu'ils ont été victimes d'injustice. Et le Seigneur nous demande de ne pas les oublier. Donc si vous voulez, dans ce texte qui décrit les critères, les actes qui vont permettre de distinguer les moutons des boucs, eh bien, Jésus attire notre attention sur ceux qui sont vraiment fragilisés, ceux qui sont en rupture sociale, ceux qui sont les plus vulnérables, qui n'ont pas les moyens de se défendre, pas les moyens de subvenir à leurs besoins. Ceux-là sont appelés des petits, des pauvres. Et sur quoi serons-nous jugés pour être dans le groupe de droite ou de gauche? Sur notre rapport à ces petits. En fait, la manière dont nous les traitons va permettre de vérifier la qualité, l'authenticité de notre foi. La manière dont nous traitons les plus petits permet au Seigneur de vérifier la qualité de notre amour. Et alors se pose cette question, mais quel regard est-ce que j'ai sur les plus petits ? Quand le roi commence à trier, on perçoit un élément de surprise chez tous. Personne parmi toutes les nations ne semble avoir eu conscience de l'importance de ce qu'il a pu faire ou pas fait au cours de sa vie. Chacun s'attendait peut-être à ce que le jugement de Dieu porte sur d'autres critères. En tout cas, personne n'a conscience que les gestes qu'il a pu avoir, les actes qu'il a faits, auraient une telle importance au moment du jugement. Et tous les moutons sont surpris quand ils s'entendent dire « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. » Pour que Jésus puisse dire à quelqu'un « Tu es béni de mon Père », il faut que cette personne ait pu traduire en actes concrets l'amour qu'elle porte pour Jésus. C'est le faire qui confirme notre engagement pour Christ. Jésus a accueilli les plus faibles, les plus démunis, parce que lui-même a été démuni. Et accueillir le faible, c'est faire comme Jésus. Et comme Jésus, comme lui, et comme si je le faisais pour lui, je suis moi aussi invité à ouvrir mon esprit et mon cœur, et peut-être mon porte-monnaie, et peut-être ma maison, à ceux qui sont dans le besoin. Jésus aime et accueille les malades. Alors si je rends visite à un malade, c'est comme si je rendais visite à Jésus. En fait, plus je connais Jésus, plus je saurai aussi comment je dois agir et me comporter dans la vie de tous les jours. Alors parvenu à ce stade, il faut peut-être poser trois questions. C'est qui sont vraiment ces pauvres? Que veut dire être pauvre? Et comment est-ce que je peux réellement aider les pauvres? Cela, la question de savoir qui sont vraiment ces pauvres, il existe un grand débat parmi les interprètes de la Bible pour savoir si les pauvres en question ici sont uniquement des chrétiens, des frères en Christ, ou s'il peut s'agir de n'importe quel pauvre. L'enjeu n'est pas mince parce qu'il s'agit de savoir qui nous sommes appelés à aider. Vers qui le ministère de l'Église doit se tourner? Vers des personnes démunies au sein de l'Église ou vers des pauvres de manière générale? Et puis avec quel objectif? Pour préparer le terrain pour que des gens viennent au Seigneur ou pour éradiquer la pauvreté dans le monde? En fait, la réponse que Jésus donne peut nous troubler. Parce que Jésus dit, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ses plus petits, l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc Jésus parle de petits et de frères. Ces petits, ce sont ceux qui sont faibles, démunis, malades, handicapés. Et Jésus les appelle des frères. C'est-à-dire des personnes qui font partie de sa famille. Et s'ils font partie de sa famille, ne sont-ils pas obligatoirement des croyants, des disciples de Jésus? Et il est vrai que le terme « frère » dans la Bible n'a jamais ce sens large qu'on entend parfois d'un frère en humanité. Non, c'est un frère dans la communauté de foi, c'est un frère qui appartient à la même famille spirituelle. Quand la Bible parle dans d'autres textes du pauvre, de l'indigent ou du faible, elle évoque, généralement, toujours disent certains, les pauvres au sein de la communauté des croyants. Donc le souci pour le pauvre, en tout cas dans une perspective biblique, ce souci est toujours à vivre d'abord au sein de la communauté chrétienne. On ne peut pas se préoccuper des pauvres au loin sans se préoccuper d'abord de ceux qui sont dans notre propre famille, la famille selon la chair et puis la famille spirituelle. Donc l'amour vrai et l'amour authentique doit trouver sa traduction dans des actes concrets au sein de la communauté chrétienne, auprès de nos frères et de nos sœurs en Christ. C'est là la priorité des priorités dans une perspective biblique. C'est l'accent principal qu'on trouve dans la Bible. Mais est-ce que c'est la seule voie? Est-ce que l'amour doit être dirigé uniquement envers les croyants ou la communauté des croyants? Est-ce qu'il n'y a pas un élargissement souhaité de Dieu envers les pauvres qui ne sont pas ou pas encore dans la communauté des croyants? Alors, je ne peux pas ici entrer dans l'exégèse complexe de ce texte. Mais je rappelle qu'on est dans un cadre où il est question du jugement dernier. Or, est-il possible d'imaginer que Dieu condamnerait au feu de la géhenne tous ceux qui n'ont pas manifesté de compassion, non pas envers tous ceux qui n'ont pas manifesté de compassion pour les pauvres de manière générale, mais envers les pauvres au sein de la communauté des croyants? Est-ce que Dieu pourrait juger toutes les nations sur le critère que des non-croyants n'ont pas aidé les croyants au sein de l'Église? Il semble que ça ne fait pas partie de la perspective biblique. Et Matthieu 16, 27, par exemple, semble confirmer que Dieu va juger chacun selon les œuvres, toutes ses œuvres, tous ses actes. Il est dit là, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, donc même contexte que le nôtre, et alors il rendra à chacun selon sa manière d'agir. Il n'est pas question d'une action spécifique envers la communauté chrétienne. Qu'il me semble, sans entrer dans plus de détails, que l'amour ne doit pas s'arrêter aux portes de l'Église. S'il y a une priorité qu'on doit accorder aux frères ou aux sœurs dans la foi, il y a malgré tout une place pour aimer et pour aider de manière plus large. C'est ce que Paul dit aussi dans Galates 6, verset 10. Il dit « Pendant que nous en avons l'occasion, œuvrons pour le bien de tous, pour le bien de tous. » Et après, il précise « En particulier pour la maison de la foi. » Donc notre amour peut et doit s'élargir, il doit se traduire par des actes concrets auprès des non-croyants aussi. D'ailleurs, est-ce que Jésus n'a pas guéri aussi des personnes en dehors de la communauté juive? Et c'est parce que des gens avaient cette compréhension d'un amour plus large, d'un amour qui s'étend aux nations, qu'ils ont agi au nom du Christ. Je pense à un certain William Wilberforce qui a agi pour l'abolition de l'esclavage parce qu'il avait cette compréhension plus large. Aujourd'hui, il y en a d'autres qui agissent pour lutter contre la traite des êtres humains. Ce n'est pas la mission de l'Église de s'occuper d'éradiquer toute la pauvreté dans le monde. Mais notre texte ouvre, je crois, bel et bien la possibilité d'un engagement individuel auprès de tous les pauvres. Même en dehors d'une voie, je crois, strictement individuelle, il est possible que des chrétiens veuillent s'engager pour une cause qui peut même avoir peut-être une dimension politique à certains égards, quand il s'agit de lutter contre les discriminations, les injustices, et pour aider ceux qui sont marginalisés dans la société. Je pose ma deuxième question. Que veut dire être pauvre? Nous parlons de pauvre, mais qu'est-ce que la pauvreté réellement? En fait, notre texte évoque des carences dans les besoins fondamentaux. Mais notre texte reste assez général. C'est à chacun d'avoir le discernement pour savoir qui il veut ranger dans la catégorie des pauvres, des gens qui sont dans le besoin. Mais si nous cherchons quand même à préciser un peu les choses, il faut bien reconnaître que c'est difficile de définir qui est pauvre ou ce qu'est un pauvre. On pourrait dire un pauvre, c'est une personne qui manque de moyens matériels ou qui manque d'argent. Mais tout de suite, cela évoque d'autres questions. Si on dit que cette personne a des ressources insuffisantes, alors à partir de quand on peut dire qu'elle aura des ressources suffisantes? Et est-ce qu'on parle des ressources suffisantes pour survivre ou pour vivre sans qu'il y ait des carences importantes dans les besoins de base ou simplement pour vivre d'une manière acceptable par rapport à la condition moyenne des gens autour de nous? Étant sous-entendu que si je vis en dessous de cette moyenne-là, je serai pauvre. La Bible ne nous donne pas une définition précise de la pauvreté. Mais elle nous parle des pauvres et de ce qui les caractérise. Elle mentionne, comme une expression typique du pauvre, la veuve et l'orphelin. Elle ajoute parfois l'étranger. Alors, je dis bien, c'est une catégorie typique parce qu'aujourd'hui, les veuves ne sont plus nécessairement pauvres. En tout cas, dans les États où il y a des filets sociaux. Et il faudrait peut-être trouver d'autres catégories sociales pour parler de l'ensemble des pauvres. Mais on comprend bien ce que cette expression recouvre. On n'est pas pauvre parce qu'on aurait moins que la moyenne des gens. Mais on est pauvre parce qu'on a faim. Ce n'est pas le fait qu'on a peu qui nous qualifie de pauvres, mais c'est le fait de manquer du nécessaire pour vivre. Dans notre texte, il est question de faim, de soif, de nudité, de la condition d'étranger, de la condition de prisonnier ou de malade. Toutes ces catégories nous parlent des besoins fondamentaux de l'être humain. Je pense aux personnes qui viennent prendre des colis alimentaires dans la distribution que nous faisons le mercredi. Ces gens viennent parce qu'ils ont faim. Mais souvent, la faim est la porte d'entrée qui nous permet d'aller à la rencontre de ces personnes pour découvrir d'autres besoins, d'autres problématiques. La faim n'est qu'un des aspects de la pauvreté. Mais quand quelqu'un a faim, il a souvent d'autres besoins. Et la question, c'est comment, alors que nous servons ces personnes en leur donnant un colis alimentaire, nous pouvons aller à leur rencontre pour voir quelles sont les problématiques globales, pour aider ces personnes réellement à sortir de leur pauvreté, de les aider mieux encore. Notre texte parle aussi des gens qui sont malades. Il est intéressant de noter que les malades ne sont pas mentionnés parce qu'ils n'auraient pas accès aux soins, mais ils sont mentionnés parce qu'ils ne sont plus intégrés dans la communauté sociale. Ils ont besoin de relations sociales. Et c'est pour ça qu'il est important de les visiter, pour les inclure. Et il est vrai que la maladie ou le handicap peuvent isoler facilement sur le plan social. Dès qu'on ne voit plus quelqu'un, on le rencontre même dans la communauté, dès qu'une personne est malade pendant un certain temps, qu'on ne la voit plus, n'a-t-on pas tendance à l'oublier? Il ne faut donc pas nous contenter de voir la pauvreté uniquement sous l'angle du besoin matériel, mais il faut aussi nous intéresser aux relations sociales, à l'accueil qu'on réserve aux gens qui sont exclus. La pauvreté englobe tous ces aspects. Vous savez, quelqu'un qui n'a plus de relations sociales, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus vulnérable aux injustices et à la pauvreté matérielle. Ne voyons pas les pauvres comme des gens qui n'auraient, enfin des gens à problème ou des gens qui, dont on devrait se méfier. Le pauvre est un humain créé en image de Dieu. Il mérite le respect, toujours. Il a une dignité et nous devons préserver sa dignité. Et c'est pour cela que les prophètes bibliques dénoncent tellement souvent l'exploitation du pauvre. Mais j'en viens à ma troisième question, comment réellement aider alors les pauvres? Le pauvre est quelqu'un de très vulnérable et l'Écriture nous appelle à être juste à son égard. Mais je crois que nous devons éviter deux écueils fréquents. Le premier, c'est de ne pas considérer que le pauvre, à cause de sa condition de pauvre, est un saint. Parce que même s'il y a une solidarité entre Christ et les pauvres, nous devons veiller à ne pas penser systématiquement le pauvre comme une victime. Et quelqu'un qui systématiquement aurait en face de lui un riche qu'on perçoit comme un exploiteur. La vision biblique est plus complexe que cela. Elle nous pousse à rechercher la vérité des faits. Sinon, nous risquons de tomber dans une autre forme d'injustice, celle à l'égard de ceux qui sont en face des pauvres. Les pauvres sont aussi des pécheurs. Ils se rendent aussi coupables d'injustice. Mais disant cela, il faut bien reconnaître qu'ils courent plus et plus souvent le risque d'être eux-mêmes victimes d'injustice que le reste de la population. Et cela à cause de leur situation de pauvreté. Deuxième écueil que nous devons éviter, c'est que nous croyons parfois que nous devrions sauver le monde et que nous devrions pouvoir éradiquer la pauvreté dans le monde. Et je crois que cette vision idéaliste est utopique et n'est pas biblique, parce qu'elle ignore d'une certaine manière les conséquences du péché dans le monde. Nous vivons dans un monde qui est imparfait. Et il vaut mieux avoir une vision réaliste et agir concrètement que de vivre dans l'utopie et de ne rien faire. Ce que Dieu nous demande, c'est de pratiquer des actes de justice et d'amour à notre niveau et non pas de sauver le monde. Mais alors, comment aider le pauvre ? On ne va pas réussir à éliminer la pauvreté simplement en donnant des biens matériels ou en donnant une somme d'argent. Et notre texte biblique met l'importance pas seulement sur la faim ou la soif, mais il évoque les relations. Et la restauration des relations, c'est souvent une composante essentielle de la réduction de la pauvreté. J'ai pu rencontrer récemment une dame qui vit dans une précarité extrême. On pensait que ses besoins étaient uniquement matériels. En découvrant cette dame, en voyant ses besoins, je me suis aperçu qu'au fait, au fond, son vrai besoin, c'était de restaurer les relations avec ses enfants et avec sa famille. Et que si ce point-là était réglé, tous les autres points seraient réglés. Voyons au-delà de la surface. Allons à la rencontre des gens pour connaître leurs besoins. Pour avoir une aide qui soit efficace, il faut aussi faire attention de ne pas tomber dans le paternalisme et faire pour les autres ce qu'ils sont capables de faire eux-mêmes. Si on doit envisager une aide sur le long terme, il vaut mieux plutôt essayer de fortifier, d'encourager les personnes pour qu'elles puissent faire des pas vers l'indépendance progressivement. Alors c'est vrai que ce que je vous dis là dépasse un peu les bornes strictes du texte que nous venons de lire. Et j'aimerais terminer maintenant en laissant quelques pistes de réflexion en revenant à notre texte. J'aimerais laisser trois pistes rapidement. Première piste, je perçois dans notre texte un appel à la générosité. Notre amour pour les plus petits doit se traduire par la générosité, par l'ouverture de notre cœur, chacun selon ce qu'il a à disposition. Il n'y a pas une sorte de préférence de Dieu pour les pauvres. Si vous voulez, les évangiles ne contiennent pas de texte de bénédiction générale qui serait adressé à ceux qui sont pauvres et opprimés parce qu'ils sont pauvres et opprimés. Mais la pauvreté dans la Bible est présentée comme une malédiction. Et c'est pour cela que Dieu bénit tous ceux qui prennent soin des plus petits pour les aider à sortir de cette malédiction et les aider à entrer dans une certaine stabilité. Donc, premièrement, appel à la générosité. Deuxièmement, Dieu nous met en garde ici contre le danger de l'indifférence. Il y aura toujours des pauvres parmi nous. La Bible le dit. Et du coup, nous pourrions devenir indifférents à la misère qui règne autour de nous. Côtoyer toujours des pauvres et on ne les voit plus. La perspective du jugement dernier, qui est évoquée ici, doit vraiment nous pousser à réagir et puis à témoigner du souci pour les plus faibles. À quoi voit-on qu'on est face à un bon arbre ? Au fait qu'il porte de bons fruits. Notre foi sera valide et validée par le Seigneur dans la mesure où elle se traduit par des actes concrets. Ici, ce matin, le Seigneur nous invite à ne pas faire la sourde oreille, à ne pas nous boucher les yeux, mais à ouvrir les yeux pour voir les possibilités de solidarité au sein de la communauté des croyants d'abord et puis de manière plus large ensuite. Jésus est un modèle pour nous. Voyons comment il a fait, imitons-le. Troisième et dernière remarque, ce texte nous rappelle notre responsabilité chrétienne. mais il nous invite aussi, du coup, à nous situer par rapport à Jésus. Ce que je fais à l'un de ses plus petits, c'est à Christ que je le fais. Et ce que je ne fais pas, c'est à Christ que je ne l'ai pas fait. Alors, ne courons pas le risque qu'un jour Jésus nous dise « Mais tu ne l'as pas fait. Pourquoi ?» Que le Seigneur puisse nous dire un jour « Au contraire, tu es béni de mon Père. » Amen. Seigneur, merci parce que tu nous instruis par ta parole. Merci parce que tu nous invites aussi à ne pas avoir toujours conscience de tout ce que nous faisons. Il y aura un élément de surprise. Tu nous invites à ne pas savoir ce que la main gauche fait quand la main droite donne. Mais Seigneur, aide-nous à être généreux. Aide-nous à nous souvenir des pauvres. Aide-nous à nous souvenir de toi d'abord. Qui a été pauvre parmi les pauvres ? Seigneur, nous reconnaissons que nous-mêmes, nous sommes pauvres. Pauvres dans nos relations, pauvres dans notre foi, pauvres dans notre amour pour toi. Nous savons que le seul qui est riche, c'est toi. Et nous te demandons, Seigneur, maintenant, de nous enrichir de la présence de ton Fils et de ton Esprit. Au nom de Jésus. Amen.